marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il n'y a pas de plus grande injustice que de refuser à un peuple le droit à l'histoire.
François, Omar et Greg.
J'étais à l'époque secrétaire général de la mosquée Camille Pelletan. Et là, je vois l'imam de ma mosquée, je rencontre le président, on fait une réunion de bureau. Et je dis, écoutez, il y a le conseil régional, il y a le Front National à côté. Mon argument était très simple. Je dis, mais le prophète, il a discuté avec ses ennemis. Et là, je me présente donc à la séance plénière, on monte dans les bureaux. Et là, il y a Grégory Gennaro qui me voit arriver, qu'est-ce que c'est cet extraterrestre. Lui, il était au groupe, il tenait la permanence du groupe. Et il me voit arriver comme ça. Alors le mec, très méfiant, hein, parce que Greg, c'est un facho, hein, il faut pas oublier. Hein.
Qui aurait pensé qu'Omar et Greg se rencontreraient jamais? Et au Front National, au Conseil Régional de PACA, où le parti disposait d'un important groupe. Bien sûr, l'un et l'autre avaient eu l'expérience d'une adolescence chaotique. Ils avaient longtemps cherché leur place dans la France des années 1980-1990. Mais dans sa cité, Omar, on vient de l'entendre, s'était fait une spécialité de la chasse au skin, tandis que Greg, dans la sienne, se sentait entouré de la haine de la racaille. Ils diront plus tard qu'une inquiétude commune les a peu à peu habités. On a un désir, et ça s'appelle la France. Greg trouve assez rapidement une réponse qui semble lui convenir au Front National. Le parcours d'Omar accumule davantage d'expérience. 10 ans au PS, 3 à l'UDF, un moment encore à l'UMP. Pour lui, le Front National vient en dernier ressort. L'explication de ses zigzags tient peut-être à son âge. Il est plus vieux que Greg. Surtout, il a la double nationalité française et algérienne et sa famille en Algérie a été déchirée par la guerre d'indépendance. Enfin, il est entré en islam, ce qui a rendu son arrivée au FN problématique, mais aussi peut-être utile pour le parti, dans la stratégie rassembleuse qu'il lui arriva d'expérimenter. Le Front, tel que le vivent alors Omar et Greg à Marseille, est une auberge espagnole. Jean-Marie Le Pen aurait dit « Tous les fous sont au FN, mais ce n'est pas un parti de fous ». Omar et Greg ont fini par ne plus être d'accord avec la deuxième assertion. Ils ont quitté le FN, déçus de n'avoir pu aller plus avant dans la brèche qu'ils avaient ouverte dans un parti désormais dominé par les identitaires. Ce qu'ils attendaient, eux, c'était la défense et illustration du patriotisme social. Ils les trouvent maintenant chez les Gilets jaunes. Omar et Greg ont été de la plupart des manifestations du samedi sur le Vieux-Port. Dans la matière inattendue que constitue leur vie croisée, s'est introduit François Beaune, qui croit que l'écrivain n'est pas là pour raconter sa vie aux autres, c'est au contraire aux gens de raconter leur histoire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
François Beaune, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes entré dans la matière de Omar et Greg. Il faut d'abord qu'on dise un peu qui vous êtes. Alors vous êtes connu par des romans, par tout un travail que vous avez mené aussi de collecte, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, autour de la Méditerranée, puisque aussi bien vous habitez Marseille, vous aussi maintenant.
Oui, mon travail oscille entre la fiction et la non-fiction, et de temps en temps c'est vraiment ténu, comme pour Une vie de Gérard en Occident, qui est le récit à la première personne d'un ouvrier de campagne en Vendée qui existe réellement, donc je pars d'un modèle vivant.
Mais là, ils sont romanesques, hein, les deux personnages, Omar et Greg. Comment les avez-vous rencontrés?
À chaque fois, c'est un peu le hasard. Il se trouve que je m'étais fait cette copine qui a comme voisin Greg. Et un soir, il vient manger à la maison et il commence à me raconter de l'intérieur comment le FN, c'est parti. Il vient de quitter le FN. Et comme moi, j'avais pas d'amis au Front National, je suis curieux et il me raconte en fait une critique de l'intérieur du Front National. On est en 2016. Et les élections qui arrivent. Et comme il était au chômage, il avait du temps, alors je lui ai proposé de le voir, de l'interviewer régulièrement.
Parce que...
Et je connaissais pas Oumar à l'époque.
Tous les enregistrements qu'on va entendre, ça rentre dans un grand dispositif. Là, il y a donc un livre qui paraît aux éditions Le Nouvel Attila, mais vous faites aussi des enregistrements qui peuvent être disponibles pour une occasion comme celle-ci. Oui, mais je vous ai interrompu au moment où vous disiez qu'allait intervenir dans le dispositif Oumar. Alors Oumar, il passe son enfance et son adolescence à Reims. Le père d'Oumar,
C'est un ouvrier cheminot, mais qui est arrivé donc en 62 rapatrié d'Algérie.
Et il fait les 3-8, le père, il n'a pas beaucoup de temps de s'occuper de son fils, dit Oumar. Alors là, il faut dire que c'est vous l'écrivain, mais que les deux personnages, Greg et Oumar, écrivent beaucoup eux-mêmes. On peut trouver sur le site d'Oumar des textes nombreux en ligne. C'est pas les premiers de la classe, mais ils sont de plus en plus curieux. 1989, nous sommes à Reims, la ville est marquée par le meurtre d'un jeune harki, Ali Rafa, ayant pénétré avec un groupe de camarades dans une boulangerie. Une bagarre sérieuse s'en étant suivie. Et la femme du boulanger a pris sur elle la responsabilité du meurtre, déclarant avoir tiré dans un troupeau de jeunes maghrébins. Elle est acquittée, l'affaire fait un moment grand bruit, elle a été oubliée depuis, mais pas par Oumar et ses camarades.
Les années 80, ça a été les plus durs. Il y a eu le mouvement Skinhead qui s'est implanté à Reims, et là ça a été mortel. Tu vois, par exemple, plus personne des quartiers allait au centre-ville, c'était chaud. Moi, j'ai pris 3-4 branlés. Puis après, j'ai dit, tu vois, les 3-4 dernières, là, parce qu'après, il n'y en aura plus. Et en 6 ans, il n'y en a plus une seule branlée. C'est moi qui l'ai donnée. Moi, j'ai été fort, tu vois. Les arrestations, je les compte plus, hein, mais j'ai été fort. On est allé même très loin. Et après, tu as eu la première guerre du Golfe en 91. C'est un truc de malade. Là aussi, les Noirs, les Arabes d'un côté, tous avec Saddam, tous les Blancs avec le Front National contre Saddam. Et là, les armureries complètement vidées. La ville ne s'en est pas remise jusqu'à maintenant de tout ça, tu vois. Les relations entre quartier et les autres, c'est difficile jusqu'à ce jour. Et si tu veux, c'est un peu ce qui explique pourquoi nous, on était des révoltés acharnés, on faisait des embuscades aux flics, on a brûlé des voitures de flics. Eux, ils nous la rendaient, hein, attention, hein. Des branlés sur branlés, j'en ai pris des branlés au commissariat, en garde à vue, on allait. Mais si tu veux, c'était de bonne guerre. Tu m'attrapes, je t'attrape. On savait qu'est-ce qui se passait. Et à un moment donné, j'ai voulu sortir de tout ça, tu vois, ça commençait vraiment à être pesant. Et déjà en 90, je commençais, les années 88, je commençais déjà à travailler dans les centres sociaux, les MJC, et j'ai commencé à militer dans les associations. Donc je me suis un peu forgé une solide expérience dans le tissu associatif de Reims. Et en 91, alors moi j'ai pas eu de chance, je faisais un footing à la base 112, dans les environs de la base aérienne. Ouais, un petit peu. Rien à voir avec le petit ventre que j'ai aujourd'hui. C'était la belle époque, tu sais, 45 ans aujourd'hui, c'est plus comme à 20 ans. Et je faisais mon footing et je me suis fait interpeller. Et parce que j'aimais bien regarder les B-52, ils passaient devant notre base comme ça au-dessus. Ils allaient bombarder l'Irak. Et là, je me fais interpeller par des gendarmes. C'était premier plan vigie pirate. Et là, qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors moi, je courais avec un t-shirt écrit en gros Malcolm X et un bas de treillis. Mais viens ici. Donc, on tape sur l'ordi, je me suis pas recensé, je suis insoumis. Du jour au lendemain, je quitte l'école, je me retrouve à l'armée. Oh, un truc de malade, je suis arrivé, j'étais tout en kaki. Le dimanche, interpelleur, j'étais scolarisé. Le lundi, à l'armée.
Et contre toute attente, eh ben, ça finit par lui convenir à Oumar, l'armée.
Il a adoré l'armée, c'était l'ordre. C'est un personnage qui a besoin de règles. Et son père lui a jamais donné de règles.
Et l'armée, pour cause, il était au 3-8.
Il avait pas le temps, il était au boulot. Ça.
Alors Greg, maintenant. Alors là, nous sommes à Vaux en Velin. Le père?
Eh bien, serrurier de la ville de Vaux. Cégétiste, communiste. Hein, mais il regarde la télé, et, de temps en temps, quand il y a Jean-Marie Le Pen qui dit des trucs, il dit, ah bon, on pourrait peut-être lui laisser sa chance à celui-là.
Il faut dire que les expériences à Vaux-en-Velin sont souvent un peu difficiles. Adolescent, Greg a vu de son balcon brûler son école maternelle. C'est comme si mon enfance avait disparu.
Ouais, et puis surtout, on lui a fait la misère au collège, quoi. Il a vécu des années terribles il se faisait taper dessus, quoi.
Alors il le dit ici.
Il est devenu obèse, il a vraiment été dans une grande souffrance.
Il le dit ici, mais en maniant l'euphémisme, c'est peut-être parce qu'il est face à Omar et à vous.
Quand j'étais plus petit ou adolescent, j'étais aussi emmerdé par des Blancs. Mais c'est vrai que dans le quartier où j'étais, c'est vrai qu'il y avait un fort taux de jeunes qui étaient issus de l'immigration. Et qu'on était beaucoup emmerdé par des jeunes issus de l'immigration. Oui, après, j'avais des potes qui étaient juifs, qui étaient arabes, qui étaient noirs. Mon meilleur pote, quand j'étais petit, Brel, c'était un noir. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de souci, quoi. Mais à un moment, voilà, il y a 91 qui arrive, le problème des banlieues qui dégénèrent, qui ne sont pas traitées, la rupture, elle est là. Alors effectivement, on peut être dans une phase de contestation, de haine, mais pas vis-à-vis de une ou de perte de tout, quoi. Tu t'aimes pas, tu n'aimes pas ton monde social, tu le rejettes, etc. Et tu cherches, en fin de compte, tu cherches des potes, quoi. Tu cherches une voix, et en banlieue, avec tout ce qui se passait, la voix qui nous parlait, c'était Le Pen. Moi, mon engagement au Front National, c'était par haine, mais pas par haine vis-à-vis des étrangers spécialement. C'est une haine de tout.
Oui, parce qu'il a des mots très forts. J'étais une proie, j'avais des hyènes autour de moi.
Oui, il a vraiment... Et puis son père, qui était serrurier donc à la ville de Vaux-en-Velin, contrairement à toute la petite classe moyenne qui est partie, eh bien, lui, il voulait rester. Et il en a beaucoup voulu à son père, parce qu'il voyait ça comme la cause de son mal-être, de son malheur.
Alors, il va même devenir collaborateur permanent du conseil régional de PACA, comme on disait à l'époque, au bout de quelques années. Ce qui vous intéresse, vous aussi, c'est le vocabulaire qu'il utilise quand il parle de ses camarades du FN. Camarades ? On dit camarades ? Ça vous a étonné, ça, François ?
Ouais, c'est étonnant comme, finalement, Greg, toute sa formation idéologique est basée sur des textes de Lénine, de Chavez, qu'il adore, de Jaurès, vraiment des révolutionnaires d'extrême gauche. Et toute sa pensée, en fait, est nourrie par ça, sur le social, sur l'égalité, sur la justice sociale. Et il essaye de faire ça au FN.
Et Omar, il avait aussi un idéal transcendant de la France, mais il n'a pas pu rester dans l'armée. C'est pas qu'il a été en tôle, mais enfin, il avait un passif quand même, trop de garde à vue. Et il va se retrouver à Bordeaux, s'insérer peu à peu. Mais ce qui nous intéresse, il y a d'autres aspects dans les conversations que vous avez eues avec eux deux. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'évolution politique. Mouvement des jeunes socialistes, SOS racisme, testing dans les boîtes de nuit.
Omar, il a appris par cœur des discours de la SFIO. C'était sa formation idéologique, c'était l'EPS de l'époque avec Mélenchon, Dré, Harlem Désir, etc. Mais à un moment donné, il a pas trouvé sa place là-dedans, parce que ça, c'était jamais qu'un grand frère de banlieue, quoi, pour eux. Et c'est dans la religion, avec les frères musulmans, à l'UOIF, qu'il va trouver une place politique. Et en fait, il rentre en religion pour des raisons qui sont politiques, qui sont pas religieuses. C'est ça qui est intéressant, c'est de remettre aussi... ces deux personnages, moi, ce qui me touche chez eux, c'est qu'ils échappent à chaque fois, quoi. Ils sont complexes, ils se contredisent. D'ailleurs, ils le disent qu'ils se contredisent. Ils essaient, ils se perdent, ils recommencent. Ils sont juste en train de chercher leur place au monde, leur place politique au monde.
Et alors, le voilà, vous parliez de l'UOIF, le voilà maintenant qui a des responsabilités dans une mosquée de Marseille.
Moi, j'étais à l'époque secrétaire général de la mosquée Camille Pelletan. Donc, c'est El Tarqua, c'est la plus ancienne mosquée de Marseille. La première, d'ailleurs, 1975, déclarée en préfecture. Et là, je vois l'imam de ma mosquée, je rencontre le président, on fait une réunion de bureau, et je dis, bah, écoutez, il y a le conseil régional, il y a le Front National à côté. Moi, je m'engage à... Alors, même en interne, hein, ça a été un débat, hein, houleux, attention. Hein. Comment, Omar, les Front National, les fachos, contre l'islam... Je dis, mais... mon argument était très simple. Je dis, mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, le prophète Mohamed, il a discuté avec ses ennemis. Alors, j'ai l'autorisation, j'ai une petite fatwa du bureau, donc je vais au conseil régional, et là, je demande d'avoir un responsable du Front National. Alors, ce jour-là, c'était Stéphane Djerbeck.
Stéphane Durbeck, c'est un personnage étonnant, un peu dandy, catholique affirmé, antillais, avec la réputation d'être le black du FN, et peut-être une stratégie d'ailleurs liée à sa différence au milieu de ses camarades.
Oui, c'est ce qui représentait Durbeck, et il n'était pas du tout dans la mouvance des identitaires aussi.
Mais peu avant cette démarche inattendue, Omar avait découvert, dans les papiers de son grand-père, le rôle qu'avait eu son grand-père d'Algérie, en France, dans l'armée française. Il arrivait dans un parti où il y avait des rapatriés, où il y avait peut-être des descendants de harkis. Lui, il n'était pas d'une famille de harkis, explicitement.
Ça lui a fait un choc. Il est tombé sur les papiers. Il s'est rendu compte que toute sa famille était la famille de soldats.
De soldats, pas de harkis.
Pas de harkis. Et lui qui se vivait dans une sorte de rébellion vis-à-vis de la France, qui se vivait pro-FLN, et bien d'un coup, il découvrait qu'il y avait une grande partie de sa famille qui était de l'armée française.
Tu vois, c'est compliqué de définir la motivation qui m'a rapproché du franc. À vrai dire, il y en a plein. Mais je crois que c'est aussi lié à mon parcours populaire, tu vois. C'est que on a toujours été catégorisés ou catalogués comme des gens toujours réfractaires à l'identité nationale. Tu vois, si tu parles de les banlieues, putain, les mecs ne veulent pas s'intégrer, tout ça. C'est un vieux discours pourri, tu vois. Alors que nous, on se sent vraiment français. Moi, j'aime beaucoup la France. Mais on est obligé de se justifier. Parce qu'on nous explique toujours, on nous jette à la gueule en permanence qu'on n'est pas français, que c'est gonflant, tu vois. Et qu'à un moment, peut-être, je me suis dit, allons voir les plus français que les français, et puis posons-leur la question. Et puis après, tu as un désir de rompre avec ton pays d'origine. Je ne vais pas être méchant, ce que je veux dire, mais aujourd'hui, mes enfants, même s'ils ont leur famille en Algérie, il y a les grands-parents, il y a la belle famille, tout ça, mais je ne les éduque pas comme des petits Algériens, mes enfants. J'ai 4 enfants, je veux les éduquer comme des petits Français. Après, s'ils sont plus grands, ils ont un désir de retour au pays, ce qu'ils n'auront jamais, parce que je ne l'ai pas eu moi, ce n'est pas eux qui vont l'avoir. Mais, tu vois, je leur laisse la possibilité, aujourd'hui, de ne pas être dans un handicap identitaire, que nous, on a vécu.
Pas de handicap identitaire, allons voir les plus Français. Stéphane Durbeck n'est pas sans lien avec Jean-Marie Le Pen. Greg n'est pas sans lien avec Jean-Marie Le Pen. Et Omar, il va aller voir le plus français, Jean-Marie Le Pen.
Ça va mal se passer hein, au début, parce que c'était encore celui qui a torturé en Algérie pour Omar. Donc ça s'est très mal passé. Mais en fait, ils se sont revus parce que Jean-Marie a compris tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir à cette initiative de faire entrer les musulmans de Marseille dans le vote Front National. Et c'était ça leur projet.
Mais vous, dans la conversation, à ce moment-là, parce que vous intervenez quand même parfois entre Omar et Greg, vous dites à Omar, Jean-Marie, c'est l'Empire, quoi, pour toi.
Dans les deux groupes, disons, majoritaires du Front National, il y a l'Empire, alors qui regroupe toutes ces chapelles, là, hein, et puis il y a les identitaires. Et les identitaires, c'est Vardon, c'est Le Gude, c'est Marion Maréchal Le Pen, c'est ceux qui considèrent la race blanche comme supérieure, la race blanche et chrétienne comme supérieure.
On voit combien la brèche est difficile à ouvrir pour nos deux compères, qui pourtant cèdent mutuellement.
Je suis responsable des jeunes, etc. Donc, forcément, j'ai dit, tiens, regarde, il y a une démarche qui est entreprise, qui est intéressante, je vais présenter Omar, etc. Et Omar fait la même chose de son côté.
Alors lui, il a un avantage, c'est qu'il fait chipper. Alors le pauvre, à chaque fois que je lui rencontre quelqu'un, c'est le malé comme mon frère. Moi, je lui dis, il s'appelle Grégory. Et comme il est chipé, il passe partout. Non, ça passe partout dans la communauté. Mais c'est vrai que j'ai pas hésité. Je lui dis, écoute Greg, il faut que tu voyes la réalité. La réalité française, elle passe par la reconnaissance de toutes ses composantes. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à lui présenter, bah, tu sais, il est même passé par les anciens du FLN, par les associations algériennes, franco-algériennes, musulmanes. Il a fait la totale. Les représentants de la mosquée, ils l'ont reçu, ils le connaissent. Je veux dire, il est venu plusieurs fois avec moi dans des événementiels de la communauté. Greg, il a complètement intégré l'idée de pouvoir travailler avec tout le monde, quoi.
Alors, Greg ?
Mais après, tu vois, c'est aussi le militantisme. Le militantisme, c'est aussi une école de la vie. Donc, quand tu te présentes en tant que candidat ou quand tu participes aux élections, donc tu distribues les tracts, etc., donc tu commences à parler aux gens et à tous les gens, c'est-à-dire les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Juifs, les Blancs, tout ce que tu veux. Et là, il y a des choses qui commencent à m'interpeller. Disons, putain, mais on a tous les mêmes soucis, mais pourquoi on tape sur un tel ? Pourquoi on tape sur un tel ? Donc, si tu veux, c'est au fur et à mesure, si tu veux, il y a une réflexion personnelle qui se fait. Alors, ça se fait sur le long terme après. Ça se fait sur le long terme. Toi, parallèlement, bah, tu te fais des potes aussi au Front National, etc. Donc, il n'y a pas de rupture, si tu veux, tu es bien parce que tu as de nouvelles connaissances, tu fais la fête, enfin, voilà, tu construis ton monde, quoi. Tu ne peux pas t'extraire sans avoir une rupture. Une rupture radicale intellectuelle.
Parce que la diversité, au fond, on la connaît à l'intérieur du front. Qu'ils vous décrivent, tous deux, Omar et Greg, François Beaune, comme un labyrinthe avec beaucoup de chapelles.
Oui, c'est ça. Il y a tout un tas de chapelles. Les anciens de l'OAS, alors qu'ils sont insupportables pour Greg comme pour Omar, d'ailleurs. Hein. Les cathotradis de type d'Urbeck, les identitaires qui ont pris le pouvoir aujourd'hui avec Marion Maréchal et les anciens du GUD, avec Vardon, etc. Les sionistes, les antisionistes, enfin, vraiment, ça représente toutes ces chapelles se détestent, mais on peut en cumuler. On peut être, par exemple, sioniste cathotradis. Ça, c'est pas un problème. Le Front National, finalement, il n'y a qu'une seule chose, et c'est ce qu'a réussi Jean-Marie Le Pen, quand il a créé ce concept de système, d'être contre le système, il y a une seule chose qui les tient, c'est la colère et le fait d'être contre ceux qui nous dirigent, ce système, ces Parisiens, après ça recoupe tout un tas de réalités, mais d'être contre le système.
Mais Greg et Omar ont obtenu l'attention de sa part. Mais Marie Greg vous dit, on savait qu'on jouait celui qui allait partir, le vieux cheval.
Oui, c'est Jean-Marie a vu l'intérêt de leur projet, mais Marine, comme sa sœur, comme les autres, il y a eu ce tournant identitaire, en tout cas c'est ce qu'il raconte, à l'intérieur du FN, qui a fait que le fait de faire entrer des musulmans au FN n'était plus du tout d'actualité.
Greg l'a payé cher, il s'est retrouvé peu à peu, alors qu'il avait été candidat aux élections, qu'il avait des responsabilités, qu'il était collaborateur permanent au conseil régional sur la touche. Et il a fini par partir et s'est retrouvé au chômage.
Ben, c'était la fin de sa famille d'adoption, depuis l'âge de 15 ans. Hein. Et donc il s'est construit son identité avec le FN. Et là, il y a eu une rupture radicale.
Omar n'avait pas vraiment sa carte, et Omar avait un métier plus assuré. Qu'est-ce qu'il fait, Omar, dans ces années-là ?
En fait, il s'occupe des maraudes pour les sans-domicile fixe.
À Marseille.
À Marseille, il travaille pour la mairie. Bon. Travaille dans le social.
La leçon qu'il tire de cette expérience qui voit Greg marginalisé.
Et tu vois, un parti comme le Front National serait sorti grandi en mettant en avant des jeunes leaders. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir du charisme, d'avoir une plume. Il a pas fait la fac, j'ai pas fait la fac. Mais on a la chance d'avoir une petite plume. Alors elle est ce qu'elle est. Voilà. Mais en tout cas, parfois vitriol, parfois acerbe, parfois critique. Mais on a fait la démarche quand même en tant que petits gens du peuple. Et c'est ça aussi qu'on a ressenti. Jean-Marie Le Pen, quelque part, peut-être qu'il s'est pris de nous, parce que lui aussi, il a connu, il était mineur dans les mines, il avait fait la marine marchande, il est mec du peuple, tu vois, il a morflé, il a mangé son pain noir comme tout le monde et tout. Marine, elle, c'est une princesse, c'est une petite héritière, elle a hérité de la facilité, c'est pas ce qu'on la misère. Elle a pas mangé comme tout le monde, la misère comme nous, on l'a vécu. Et je crois que c'est aussi deux visions. Alors, il n'y avait pas que l'islam hein, dans l'histoire. faut pas voir notre déchirement interne sur la base de la religion musulmane. Non, c'était aussi le petit peuple face à de nouveaux oligarques du Front National. Pour moi, un Philippot, c'est un oligarque. C'est pas un mec du peuple. C'est un mec qui a beau avoir ses pseudo-idées de gauche, chevènementistes, derrière, ça reste un oligarque. Et quelque part aussi, la confrontation qu'on a vécue au Front National en interne, c'était les petits gens du peuple face à ces gens-là, les petits bourgeois, les nouveaux bourgeois de l'extrême droite. Voilà, c'est les petits notables. Collard est un notable, la petite Marion c'est une notable, Marine est une notable. Voilà, si tu veux, c'est aussi ces conceptions. Voilà, il y a une lutte des classes, une vraie. Alors que elle, dans son programme, quand tu l'écoutes à la télé, c'est toujours nous défend les pauvres, le prolétariat, les usines, on est là avec les petits sans grade, les petits sans voix. Puis tu, en interne, tu vois que c'est que du baratin.
C'est la question sociale qui les retient le plus, vos deux compères, François.
Il le dit bien, Omar, et Greg aussi, c'est qu'est-ce qui les fonde leur amitié même, c'est le fait que ces deux gars de la ZUP, ils viennent des mêmes milieux, et ils ont vécu l'injustice sociale de manière mordante, et ils ont envie de changer le système. Ils sont radicaux et idéalistes.
Greg, il tient un blog nourri de toutes ses lectures, de toutes les expériences qu'il continue d'emmagasiner, qui s'appelle « Patriotisme social ».
Oui, ça rassemble une sorte d'idée d'égalitarisme qui est très forte chez Greg, et cette idée d'une grande France. Quoi. C'est parce qu'on aime la France qu'on va pouvoir faire société.
C'est avant le mouvement de ces derniers mois que vous aviez rédigé tous trois ce livre, Omar et Greg, et l'atmosphère était un peu à la mélancolie. Ils se voyaient l'un et l'autre comme des Robinsons sur une île.
J'ai eu quatre cartes politiques dans ma vie, hein. J'étais encarté quatre fois. Donc,
et maintenant, tu voterais quoi maintenant?
Franchement, je vote plus, moi je suis abstentionniste. Ouais. Tu sais, moi au moins je peux dire que j'ai fait le tour du propriétaire. Personne qui peut me dire, Omar, non, j'ai fait la gauche, j'ai fait même la gauche de la gauche. À l'époque, quand j'étais au mouvement des jeunes socialistes, c'était Benoît Hamon, mon patron. Donc, il y avait Delphine Bateau, Benoît Hamon. Donc, tu vois, je suis sorti de l'école MJS. Après, il y a eu l'UPS. À l'époque, c'était Julien Drey avec Mélenchon. C'était la gauche socialiste. Après, il y a eu Emmanueli. Après, bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est bon, j'ai fait le tour. Et aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui peut porter les aspirations des Français. Et puis peut-être le destin veut pas qu'on se mette sous l'ombre de quelqu'un aussi, qu'on soit notre propre ombre. Mais voilà, on a beau faire le tour du propriétaire, on ne trouve pas.
Oui, mais depuis novembre, depuis que ce livre est sorti aux éditions Le Nouvel Attila, ils ont été évidemment happés par eux. Le mouvement des Gilets jaunes, Greg et Omar.
Oui, tout à fait. Ils sont reconnus. Omar, direct, hein, il était à 14h sur le Vieux-Port. Et Greg aussi.
Donc ils sont reboostés.
Ah, ils sont. En tout cas, moi, Greg que j'ai vu, j'ai pas vu Omar, est très heureux de ce mouvement. Et puis ils sont contents parce que c'est vraiment la lutte des classes.
Bon, j'espère, François Beaune, que nous avons été dans cette émission aussi honnête dans la restitution de vos enregistrements que vous l'avez été dans vos conversations avec Omar et Greg. Un livre étonnant et qui nous sort de nos zones de confort au Nouvel Attila. L'émission a été préparée par Nolwenn Bokri et Franck Olivard, Anne-Laure Cochet à la technique et à la réalisation, Audrey Ripouille.